Alors, j'enregistre. Bon. Alors, pour l'organisation enfin le planning de la session, en général, je fais une petite introduction pour vous plonger dans la thèse ou la perspective de l'autrice qu'on aborde. Et après, on voit un ou plusieurs textes. Alors jusqu'à maintenant, dans les book clubs précédents, on voyait pas mal de textes, parfois un peu trop. Donc au fur et à mesure, j'en mettais un peu moins. Et je crois que c'est Hélène, d'ailleurs, qui avait une fois émis la suggestion de n'utiliser qu'un seul texte sur lequel on passerait du temps. Donc là, ça s'y prêtait. Et donc, je ne vous ai envoyé qu'un seul texte, mais rassurez-vous, j'ai de quoi vous envoyer des extraits supplémentaires et puis je ferai des liens dans l'explication de ce texte vers d'autres passages de l'ouvrage. Donc, si vous avez besoin de plus, j'ai tout ce qu'il faut. Et puis, il y a le livre, évidemment. Pour vous introduire à la perspective de façon courte, puisque comme je vous disais, on ne fera pas le tour de l'ouvrage, ce qui m'a intéressée, la raison pour laquelle j'avais consacré déjà un épisode du podcast et pour laquelle la raison pour laquelle on y revient ce soir. C'est que, pas seulement parce que Martha Nussbaum est une femme et que Simone est philosophe, met en avant les femmes philosophes, mais aussi parce que il me semble que souvent on aborde les questions politiques, les sujets politiques, d'une façon qui parfois peut nous intimider, notamment en pensée politique, en philosophie politique, d'une façon qui peut nous intimider ou qui peut nous paraître trop abstraite, parce que le concept de démocratie, par exemple, est un concept qui a une histoire complexe. Et donc, si on veut s'interroger sur la vie démocratique, ce que c'est qu'une démocratie, etc., on peut tomber dans des considérations qui sont intéressantes, mais qui sont qui peuvent nous paraître éloignés de ce que l'on vit, d'une part. C'est-à-dire, en fait, voilà, pour aller directement vers ce qui m'intéresse moi dans la perspective de Nussbaum, c'est que souvent on se sent impuissante ou impuissant par rapport au sujet politique et à la pensée politique, parce qu'elle nous paraît déconnectée. C'est-à-dire qu'à la fois, on sent que c'est décisif, on sent que, évidemment, les décisions politiques et la façon dont une société est gouvernée est décisive sur les destins individuels, enfin pour les destins individuels, et en même temps, la pensée politique brasse souvent des concepts abstraits, des considérations abstraites, et on a l'impression que pour faire avancer les choses, finalement, la pensée politique ne sert pas à grand-chose, que si on veut faire avancer les choses, il faut faire avancer les choses de manière très locale, très altruiste, et donc on va recourir à l'éthique, on va recourir à des considérations éthiques. Et c'est en plus un biais féminin, si on veut. Alors, je vais faire le lien avec ce qu'on avait vu sur l'éthique du care. Mais dans l'éthique du care, on avait vu que les femmes ont tendance à être élevées pour penser les problèmes en privilégiant la question des relations et du soin. Là où, au contraire, les hommes sont élevés, là encore une fois c'est une question de culture et d'éducation, mais sont élevés pour résoudre les problèmes en termes de règles. Et il me semble que la politique, la raison pour laquelle beaucoup de femmes s'excluent des considérations politiques ou sont impressionnées par les questions politiques, c'est que précisément on aborde les sujets politiques sous l'angle des règles et beaucoup moins sous l'angle du soin. Vous me suivez? Or, quand on est intéressé par les questions de soins, on est moins intéressé par les questions des règles. Et pourtant, on sait que le soin, et on le sait clairement, en plus, là, vraiment, depuis un an, on a la crise qui nous met ça sous les yeux, qui nous met sous les yeux que la question du soin est une question éminemment politique. Et que l'avenir de nos démocraties, et même le présent de nos démocraties, dépend de la façon dont la politique prend soin de chaque vie, de toutes les vies. Est-ce que vous me suivez jusqu'à maintenant? Alors, c'est pour me placer un peu le contexte, hein, mais... Et ce qui m'intéresse chez Martha Nussbaum, bien qu'elle ne parle pas, elle ne s'inscrive pas dans la théorie du care, hein, pas directement en tout cas, ce qui m'intéresse chez Martha Nussbaum, c'est que c'est une penseuse politique, mais qui a une façon très concrète de penser les choses parce qu'elle pense la politique à partir d'une considération sur la condition humaine, sur les freins psychiques qui sont cultivés par la société capitaliste. La société capitaliste renforce des freins psychiques à la démocratie. Je vais le reformuler, hein, mais en fait, l'idée, l'un des... Enfin, c'est une vision très complète de la politique parce qu'elle relie à la fois l'éthique, la psychologie, l'éducation pour penser un progrès des démocraties. Pour Martha Nussbaum, les sociétés capitalistes contemporaines, les dites démocratiques, font la promotion d'un type d'éducation qui est contraire à la démocratie. C'est-à-dire qu'elles font la promotion d'un type d'éducation qui cultive en nous des passions, des émotions, des tendances qui nous poussent au contraire à la discrimination, à la stigmatisation, qui sont justement les freins et les obstacles à la démocratie. Il faut opposer à cette éducation un autre type d'éducation, qui est ce qu'elle appelle l'éducation pour la démocratie. Donc, il y a l'éducation qui vise la croissance économique et il y a l'éducation qui vise la démocratie et qui utilise des choses qui sont au contraire méprisées par le premier type d'éducation, l'éducation qui vise le profit, qui vise et qui, elle, cultive la concurrence, etc. L'éducation pour la démocratie est un type d'éducation qui, au contraire, va insister sur tout ce qu'on trouve inutile, à savoir les humanités, l'art, la littérature, l'histoire, tout ce qui permet aux êtres humains d'apprendre à être attentive et attentif aux plus faibles. Est-ce que vous me suivez jusqu'à maintenant? Alors, donc, elle consacre énormément d'attention à l'éducation, mais c'est pas, elle le fait de façon très intégrée à des perspectives éthiques et politiques, tout étant lié, puisque si on cultive dans les individus un goût pour la concurrence et finalement une incapacité à se mettre à la place des plus faibles, à leur porter attention, on engendre un type de société différent. Donc, psychologie, éthique et politique sont liées, puisque, et éducation, donc. Ça va? On va y revenir en travaillant le texte de près, mais je vous place un peu les choses parce que, comme je dis souvent, on comprend d'autant mieux les choses si on les a d'abord pensées, par soi-même, enfin, si on a fait un chemin de pensée. Comme on n'a pas beaucoup le temps, j'essaye toujours de vous introduire, mais de vous introduire en vous présentant un chemin qui va permettre après d'entrer assez vite dans le texte. Donc le titre de l'ouvrage qui s'appelle donc Les émotions démocratiques, comment former le citoyen du XXIe siècle. En anglais en fait, enfin le titre original c'est Not for Profit, donc ça veut dire non au profit, mais enfin, ça accentue sur le fait de. Il va être question d'autre chose que du profit, not for profit. Why democracy needs the humanities? Pourquoi la démocratie a besoin des humanités? Et les humanités, ce sont les disciplines, ce qu'on appelle aux États-Unis les humanités, ce sont les disciplines qui recouvrent les arts, la littérature, l'histoire, les sciences humaines, aussi la science politique, la philosophie, etc. Alors, je vois qu'il y a une question. Ah oui, pardon, oui, bien sûr. Martha Nussbaum est une philosophe américaine, professeure à l'Université de Chicago, professeure de droit, entre autres, et d'éthique. Mais enfin, voilà, c'est une philosophe quoi, qui a beaucoup travaillé sur le lien entre certaines émotions, comme le dégoût et la honte. Et le développement moral. Donc j'y reviendrai, c'est pour ça que je l'annonce aussi, mais elle est connue pour ça, pour avoir beaucoup travaillé sur la question du dégoût et des analyses hyper pertinentes sur le dégoût et sur la honte. Et pour les avoir abordées non seulement sur un plan psychologique, donc. Qu'est-ce qui engendre le dégoût, qu'est-ce qui se passe, les premières expériences de dégoût, etc., chez l'enfant, et comment ces expériences-là vont avoir un rôle dans la vie éthique, selon la manière dont selon la place qu'on leur donne. Donc elle travaille beaucoup sur la place sur la question de la vertu en un sens éthique et politique. Après, c'est difficile de la résumer parce qu'elle a élaboré énormément de concepts et elle a écrit énormément. Elle est vivante, oui, elle est encore vivante. Et elle a travaillé aussi sur une notion qu'on va voir dans le texte d'aujourd'hui, la notion de capacité. Elle est aussi connue pour ça, pour avoir travaillé en suivant des auteurs comme Amartya Sen aussi. Ils ont travaillé sur ces notions de capacité, c'est-à-dire la capacité, c'est une capacité, mais c'est plus qu'une capacité parce que c'est aussi un droit, c'est-à-dire c'est le type de capacité que les États et le droit doivent prendre en charge, doivent permettre à chaque individu de développer. Donc la capacité, ça joue sur ça. Voilà, c'est la capacité, mais c'est plus que la capacité, parce que c'est la capacité en tant qu'elle est rendue possible par l'État dans lequel on vit, par le droit. Alors. Je sais déjà que je ne vais pas dire tout ce que je voudrais vous dire sur Martha Nussbaum, alors il faut que je fasse un tri. Alors, dans ces inspirations, je les donne avant comme ça, parce qu'elle ne les mentionne pas dans le texte, mais ça vous place un petit peu le contexte de sa pensée. Dans les émotions démocratiques, elle parle énormément de références de pédagogues. Donc, si vous lisez l'ouvrage ou si vous l'avez lu, vous verrez qu'elle donne envie d'aller lire plein de choses, plein de textes de pédagogie. Et en philosophie, elle s'inscrit dans une tradition qui est d'une part celle d'Aristote, au sens où c'est un type d'éthique qui n'est pas. Qui, voilà, l'éthique d'Aristote vise à. C'est la recherche de la vertu. Et la vertu pour Aristote, c'est un juste milieu entre deux vices contraires. C'est la médiété d'Aristote. Donc, pour Aristote, en toute chose, la vertu, c'est le juste milieu entre deux vices opposés. Pour Aristote, pour arriver à ce juste milieu, Il faut donc avoir une conduite, prendre de bonnes habitudes, et ça passe par une forme de régulation de nos vices. Si j'ai un vice, c'est un exemple que je prends souvent parce que si j'ai un vice, plutôt que de vouloir faire son devoir de manière absolue, pour Aristote, il faut viser le vice opposé. Et ainsi, on va se rapprocher du juste milieu. Donc, c'est quelque chose de très pragmatique et qui touche évidemment à... il faut acquérir une disposition psychique, la disposition de l'âme. Et être vertueux, c'est avoir développé en soi certaines dispositions au juste milieu en toute chose. Vous me suivez? C'est donc différent d'une éthique purement déontologique, c'est-à-dire d'une éthique du devoir, où on a la raison de type kantienne. On aurait la raison qui nous dit ce qu'on doit faire, et pour être moral, il faut obéir à la raison. Pour Aristote, la raison nous permet d'atteindre le juste milieu, mais en fait, ce juste milieu, il est toujours un juste milieu entre deux types d'états d'âme, qui sont des états d'âme opposés et qui sont en eux-mêmes vicieux, excessifs. Le vice, c'est l'excès. Alors, pourquoi je le dis? Parce que chez Martha Nussbaum, c'est important, parce qu'elle relie beaucoup les émotions, d'où le titre, les émotions démocratiques, et la vertu. La vertu, c'est un certain type de disposition dans l'âme. Vous me suivez? Et sa deuxième grande, parce qu'évidemment il y en a d'autres, mais sa deuxième grande inspiration, et on la sent très présente dans les émotions démocratiques, dans cet ouvrage, c'est Rousseau. Parce que pour Rousseau, alors vous savez que Rousseau a à la fois beaucoup écrit sur la politique et il a aussi beaucoup écrit sur l'éducation, puisqu'il a écrit l'Émile ou de l'éducation, entre autres. Et les deux sont liés, c'est-à-dire qu'à la fois il y a des traités très politiques, mais son but c'était de réduire la violence sociale, c'est-à-dire le but c'était d'éviter l'aliénation. Comment penser une société sans aliénation? Et il y a chez Rousseau à chaque fois l'idée que pour avoir une société sans aliénation, il faut à la fois penser le contrat social, donc penser les choses en des termes juridiques, avoir une politique appropriée, etc., conseiller les gouvernants. Donc on a toute une série de textes chez Rousseau qui s'adressent aux gouvernants. Mais il y a aussi l'Émile ou de l'éducation, qui pour lui, clairement, a une fonction politique, parce que pour avoir une société juste, il faut faire des hommes justes. Et pour faire des hommes justes, il faut une éducation qui nous garde des vices de la société, des vices qu'on acquiert en société. Donc l'éducation d'Émile aura pour but de faire qu'il développe en lui des émotions et des vertus de façon naturelle et qu'il soit à l'abri de ce que la société en général engendre comme émotion, à savoir des émotions de concurrence, de violence, etc. Vous me suivez? Ça va? Et cette inspiration, elle est clairement présente chez Martha Nussbaum, puisque ça va être la même idée, à savoir que pour penser une société démocratique, il faut penser une société qui favorise depuis la petite enfance, donc qui favorise par l'éducation, par la culture et par l'éducation, le développement des sentiments démocratiques et qui empêche le plus possible le développement des sentiments non démocratiques. Ça va? Ces sentiments non démocratiques, alors, quels sont du coup les sentiments démocratiques, enfin les sentiments et émotions? Alors pour Martha Nussbaum, les sentiments, les émotions sont des connaissances. C'est-à-dire que un jugement de type, enfin un jugement de type moral est en même temps un sentiment par lui-même, et un sentiment est un jugement. Bon, alors ça c'est tout un pan de la philosophie de Martha Nussbaum. sur lequel je ne vais pas revenir, mais je vous le dis parce que c'est important, c'est important de au moins l'avoir en tête, que les émotions sont des connaissances. Donc, je connais certaines choses à travers le type d'émotion dont je suis capable. Donc, c'est pour ça que dans une société démocratique, pour savoir faire certaines choses, il faut que je dispose de certaines émotions. Et entre autres, pour une démocratie, il me faut au moins deux choses. Il me faut d'une part un esprit critique et d'autre part, il me faut une imagination empathique. Alors ça, j'y reviendrai après en épluchant le texte. Mais je vous l'annonce comme ça pour déjà poser le repère. Par contre, du côté des sentiments non démocratiques, du côté... Alors je vois qu'il y a une question. Alors attendez. Hop. Oui, d'une certaine façon, mais sauf que, oui, d'une certaine façon.
Quelle est la question?
Ah oui, pardon, c'est vrai qu'en plus c'est enregistré, alors ça, évidemment, je suis pas encore. Merci à Raphaël de me rappeler. Alors la question, c'est, elle puise donc aux sources de l'empirisme. Alors je crois que c'est assez complexe, mais d'une certaine façon, oui. Et en même temps, c'est très cognitiviste, puisque les émotions sont des jugements de connaissance plutôt. C'est plutôt en ce sens-là. C'est-à-dire, une émotion est considérée par Martha Nussbaum comme un jugement de connaissance. Alors, peut-être que j'aurai des occasions ultérieures de revenir sur ce type de sujet si ça vous intéresse. Hein. Mais là, je vais devoir passer vraiment au texte parce que c'est en plus quelque chose qui fait débat, évidemment. Hein. Beaucoup de... Là, c'est clairement quelque chose qui fait débat de savoir si un jugement, si une émotion est un jugement ou pas. C'est un grand débat. Alors. Donc, je disais, du côté des sentiments, de ce qu'il faut cultiver dans la démocratie, il y a l'esprit critique et l'imagination empathique. Et c'est précisément ce que développent les humanités. Et de l'autre côté, pourquoi, enfin voilà, donc ça c'est ce que je disais notamment dans l'épisode 5, hein, je prenais des exemples comme ça, du fait que en rentrant dans un film, en rentrant dans un livre, on développe cette capacité qu'on appelle l'imagination empathique. Et en fait, pour Martha Nussbaum, cette capacité, elle est fondamentale parce que c'est elle qui va me permettre de prendre des décisions citoyennes en tenant compte des points de vue des plus faibles. Vous voyez? Si j'ai pas l'imagination empathique, je vais pas pouvoir intégrer ce type de point de vue et donc je vais uniquement faire valoir les intérêts de mon groupe social. Pour que je fasse valoir autre chose que les intérêts de mon groupe social, il faut que j'en ai une certaine sensibilité et une imagination empathique est indispensable pour ça. Et c'est précisément ce que développent les arts, la littérature, l'histoire aussi, qui nous permet de prendre du recul par rapport aux situations que nous vivons et d'envisager les choses à plus grande échelle sur le plan de l'histoire. Ce que les freins, par contre, les émotions qui sont antidémocratiques sont les émotions qui naissent de ce qu'elle appelle l'angoisse de la vulnérabilité. Alors, elle s'appuie sur plein de travaux de psychologie pour montrer ça. Elle montre, alors pour le faire vite, enfin pour vous le dire rapidement, elle montre comment quand l'enfant comprend qu'il doit avoir honte de sa vulnérabilité, donc c'est la fameuse honte, ou quand il comprend que sa vulnérabilité peut susciter du dégoût, ou que des choses comme la saleté, etc., les déchets, etc., quand il comprend que ça, ce sont des choses dégoûtantes, et quand il comprend qu'il devrait avoir honte de sa vulnérabilité, il va chercher à compenser, à se dissocier de sa vulnérabilité et à compenser par une recherche de domination. Donc, il va se couper de sa vulnérabilité progressivement. Il va se couper donc de son empathie, de son imagination empathique, de ses sensations, des sensations qui nous permettent de comprendre la vulnérabilité. Il va se couper de ça et il va, alors je résume plein de choses de travaux de psychologie, hein, mais il va projeter ça sur d'autres catégories sociales. Et c'est quelque chose que j'ai pu aborder notamment dans un séminaire consacré à la question de la saleté. Et parce que justement, il y a une approche chez Martha Nussbaum où elle montre comment la saleté, sur un plan politique, renvoie, est toujours associée à la stigmatisation des minorités. Donc, il y a une, parce que dans la stigmatisation, il y a en fait la projection de ce que je n'ai pas su surmonter quand j'étais enfant, parce que mon éducation ne me l'a pas permis, à savoir la vulnérabilité. Je vais un peu vite, mais vous voyez un petit peu le type de compensation. C'est exactement ce que dit Simone de Beauvoir aussi quand elle dit que, il n'y a rien de plus misogyne qu'un homme inquiet pour sa virilité. C'est un peu le même principe, c'est-à-dire il va y avoir un phénomène de compensation dans la recherche de la domination. Une compensation d'une angoisse d'être vulnérable et faible. Est-ce que vous me suivez un petit peu sur le type de processus? Alors là, je cite Simone de Beauvoir, mais Martha Nussbaum a aussi des passages justement sur la façon dont les femmes sont objectifiées, qui rejoignent tout à fait ça aussi, hein, la façon dont les femmes sont associés aussi, justement, stigmatisés sur des traits qui sont liés à ça, au dégoût, à la saleté et à la vulnérabilité. Et donc, il y a une réflexion sur la pornographie, par exemple, chez Martha Nussbaum, là-dessus. Jacqueline, tu as levé.
Oui, j'ai pas réussi à noter. Simone de Beauvoir dit qu'il n'y a rien de
Inquiet.
plus inquiet
Ah
qu'un.
non, il n'y a rien de plus misogyne. Je ne sais pas si c'est l'adjectif misogyne, hein, mais je pourrais retrouver la citation. Il n'y a rien de plus misogyne qu'un homme inquiet pour sa virilité.
Merci.
C'est le phénomène de compensation. Alors, on retrouve un peu les mêmes choses dans les théories des boucs émissaires, quoi. Enfin, il s'agit d'exproprier, de projeter sur un groupe social tout ce qu'on refuse de voir en soi. Donc, elle a écrit une énorme somme sur le dégoût. Donc là, ici, dans les émotions démocratiques, quand elle en parle, elle en fait elle fait des évocations extrêmement synthétiques et intéressantes, mais synthétiques, d'un travail qu'elle a fait de façon très développée par ailleurs. Donc, voilà pourquoi l'éducation est fondamentale pour Martha Nussbaum et pourquoi, donc, dans cet ouvrage, il est question de démocratie et d'éducation. Parce que une société démocratique n'est envisageable que si on est capable de former des citoyens et des citoyennes. Et pour former des citoyens et des citoyennes, il faut avoir conscience du type de disposition qu'on développe dans l'âme, qu'on encourage par un certain type d'éducation. Donc il faut avoir une connaissance éclairée de la façon dont l'âme fonctionne. Et pour pouvoir, il faut avoir une connaissance éclairée de la façon dont l'âme fonctionne pour pouvoir avoir une éducation appropriée à la démocratie. Et c'était quelque chose de très aristotélicien. Aristote disait que les personnes qui peuvent gouverner une cité doivent avoir une connaissance claire de l'âme humaine. Et une connaissance empirique de l'âme humaine. Ils doivent savoir comment fonctionne la psychologie pour pouvoir faire une bonne politique. Donc, voilà. Alors, Maintenant que je vous ai annoncé un petit peu les petits repères, c'est évidemment très, très, voilà, c'est pour poser des rails. Je vous propose de creuser en prenant le texte ensemble, s'il n'y a pas de questions avant, pour qu'on ait le temps. Donc, c'est le texte, mais en fait, je pense encore vous dire beaucoup, beaucoup de choses, mais au fur et à mesure du texte, peut-être que ça sera. On va expérimenter ce type de méthode. Vous n'avez pas de questions avant? Ça va? Alors, je vais partager mon écran. Tac, tac. Pour vous mettre sur le texte. Là. Hop. Donc là, normalement, vous voyez le texte? C'est bon? Alors, comment définir le type de pays et de citoyen? Donc, je ne vous ai pas mis la page. Est-ce que je vous ai mis la page? Non, je ne vous ai pas mis la page. Je vous le dis si vous avez l'ouvrage. Et puis, même pour le replay, c'est le texte qui se situe à la page 37. Non, 36, 37, 38. J'ai coupé un petit peu pour le raccourcir. Alors, comment définir le type de pays et de citoyens que nous essayons de produire? Donc, c'est oui, que nous essayons de produire. La principale proposition opposée au modèle fondé sur la croissance, en vigueur dans les cercles de développement international, proposition à laquelle je me suis associée, est connue sous le nom de paradigme du développement humain. Alors, juste pour revenir sur la première partie, la principale proposition opposée au modèle fondé sur la croissance. Donc, le modèle fondé sur la croissance, c'est celui dont je vous ai parlé vite fait tout à l'heure, c'est ce qu'elle appelle l'éducation pour le profit ou pour la croissance économique. Cette éducation, elle a pour fonction de développer les aptitudes qui sont requises pour le marché. Donc, ce type d'aptitude, parce que le marché économique, si on vise le profit économique, on a tout intérêt à développer certaines aptitudes. Ces aptitudes sont la concurrence, principalement. La concurrence et l'incapacité à se mettre à la place de l'autre, puisque pourquoi cette incapacité, elle est fondamentale? Parce que c'est cette incapacité, c'est en fait la capacité d'instrumentaliser autrui, c'est-à-dire de regarder autrui comme un moyen et pas comme une fin. Et donc la capacité de manipuler des humains pour tirer de leur labeur le maximum de profit. Vous me suivez? Donc, cette éducation pour la croissance économique, elle a aussi comme levier, elle a comme levier d'être une éducation hyper spécialisée et hyper tournée vers des compétences techniques. Celles qui sont utiles au développement du capitalisme, donc celles qui sont mobilisées par l'industrialisation dans un système mondialisé. Vous me suivez? Donc, à être un pion parmi d'autres dans un système mondialisé. Cette éducation qui vise à... Enfin, on comprend alors que chacun va être stimulé à se faire une place et à comprendre que la loi du marché, elle est rude, que donc il est en concurrence avec les autres, et que donc il a à défendre sa place en tant que pion, puisque sinon quelqu'un d'autre la prendra. C'est un peu vite fait, mais elle le dit régulièrement et elle le développe, hein, cette idée. Bon, mais je pense que c'est assez empirique pour qu'on puisse comprendre de quoi il est question. Mais ce système-là, il suppose qu'on ait une capacité à traiter autrui comme un moyen et pas comme une fin. C'est-à-dire une capacité à ne pas respecter autrui. Parce qu'en fait, c'est la définition que Kant donnait du respect. Respecter autrui, c'est toujours le viser comme une fin et jamais comme un moyen. Et donc, quand vous retrouvez cette formule-là chez Martha Nussbaum, quand elle dit, au début, hein, de l'ouvrage, elle dit que la démocratie repose sur des piliers que sont l'attention et le respect, c'est en ce sens-là. C'est au sens où la démocratie repose sur notre capacité à regarder toujours autrui comme une fin et jamais comme un moyen. Ça paraît rien, mais en fait, c'est très difficile de regarder autrui toujours comme une fin et jamais comme un moyen. Parce qu'on a tendance à percevoir autrui en fonction de l'intérêt qu'il peut satisfaire pour nous. Vous me suivez? Donc, si on l'apprend rien qu'au pied de la lettre, on peut comprendre que quand même, voilà, même sans être à la tête d'une grande entreprise, on peut se rendre compte de à quel point c'est exigeant de viser autrui comme une fin et pas comme un moyen, et que c'est pourtant bien ça que suppose la démocratie. C'est-à-dire, c'est toujours le fait d'être capable d'entrer en imagination empathique avec l'autre. Et au lieu de considérer mon désir, mon intention et le rôle que l'autre peut jouer dans mon désir et mon intention, ce qui est une manière d'en faire un moyen, la démocratie repose sur ma capacité à toujours percevoir autrui dans son histoire, dans sa vie, dans ses intérêts, dans ses besoins, etc. Vous me suivez? Bon, donc, le modèle fondé sur la croissance, il a tout intérêt à éviter qu'on ait cette capacité-là. Et donc, c'est comme ça que le décrit Martha Nussbaum. Dans le passage notamment qui est antérieur à cet extrait, elle décrit que, en fait, il faut être fermé d'esprit. En fait, le capitalisme a besoin que nous soyons fermés d'esprit, c'est-à-dire que nous soyons capables de ne pas nous mettre à la place de l'autre, de ne pas percevoir autrui correctement, de même ne pas le voir en fait, de préférer ne pas le voir, parce que c'est ça qui va permettre la concurrence et le profit à outrance. Donc ce modèle fondé sur la croissance, c'est un modèle d'éducation qui vise à nous rendre obtus, à nous rendre fermés d'esprit. Voilà, c'est vraiment les termes qu'elle utilise, hein. Et l'ouverture d'esprit, c'est ce que permet l'éducation, au contraire, à la démocratie. L'éducation qui passe par les arts et les humanités, parce qu'elle nous ouvre l'esprit, puisque précisément, elle nous empêche de regarder l'humain comme un pion. Mais elle nous fait voir derrière chaque identité, derrière chaque nom, derrière chaque visage, l'histoire qui est sous-jacente, la vie qui est sous-jacente, la souffrance qui est sous-jacente, etc. Moi, je trouve ça très fort parce que souvent, ce qu'on voit, enfin, je trouve, on le voit dans certains films, justement, hein, des films qui visent à montrer ça, comment, dans les ressources humaines, par exemple, il est essentiel pour occuper un haut poste de ressources humaines de ne pas percevoir la souffrance des gens qu'on licencie, des gens qu'on fait travailler, des gens. Ne pas percevoir la souffrance, c'est fondamental pour, enfin, pour un système qui veut le profit économique avant tout. Et en fait, nous, on pense que ne pas percevoir la souffrance, c'est une affaire de perception, mais ce qu'elle montre dans son livre, en s'appuyant sur d'autres travaux, c'est qu'en fait, notre perception, elle est liée à notre imagination. Notre capacité de perception, c'est en réalité notre capacité d'imagination. Et donc, l'imagination, elle est fondamentale, parce que ça veut dire que directement, je vais être capable d'imaginer. Si j'ai l'imagination empathique requise pour la démocratie, ça va être ma capacité à imaginer tout de suite autrui en tant qu'un être souffrant qui a une histoire, des difficultés, des besoins, des droits, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça, les émotions démocratiques, c'est ça, c'est être capable de tout de suite me rapporter aux autres comme à des autres qui font ce qu'ils font, mais qui ne font pas que ça, qui derrière ont des souffrances. Or, nous avons tendance, là je reviens sur des trucs qui ont été travaillés par Sartre, etc., nous avons tendance à tout de suite juger, même quand on n'a pas de profit économique, on a tendance à tout de suite juger autrui, en s'en tenant à ce qu'on voit de manière très objectifiée et en négligeant tout à fait d'activer notre capacité empathique à imaginer les souffrances. C'est même quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans l'injonction à l'assertivité. C'est-à-dire on exige des autres qu'ils disent eux-mêmes qu'ils souffrent, qu'ils ont des besoins, etc. Or, l'imagination empathique, elle est fondamentale parce que précisément, normalement, si on a cette imagination-là, on est tout de suite capable de regarder autrui comme un être vulnérable. On n'a pas besoin qu'il exprime sa vulnérabilité. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors, bon. Du coup, j'ai tendance à penser que dans cette injonction à l'assertivité, il y a en fait plutôt une continuité avec l'éducation capitaliste, finalement. Enfin, c'est en fait une manière de détourner le problème qui est que nous manquons d'imagination empathique. N'hésitez pas à réagir hein, si, d'une façon ou d'une autre. Hein. Alors, je vais prendre la suite. Donc, ça, c'était pour rappeler le modèle fondé sur la croissance et en quoi un autre type de proposition est nécessaire, qui est ce qu'elle appelle la proposition connue sous le nom du paradigme du développement humain. Donc, le paradigme du développement humain qui va être justement de développer, de considérer l'humain comme un être en développement qui a des capacités à développer et des émotions à développer pour vivre de façon démocratique. Bon, je m'exprime mal, hein, mais j'espère que vous voyez où j'en suis. D'après ce modèle, l'important, ce sont les chances ou les capacités dont chaque personne dispose dans des domaines essentiels, qui vont de la vie, de la santé et de l'intégrité corporelle à la liberté et à la participation politique et à l'éducation. Je m'arrête. D'après ce modèle, l'important, ce sont les chances ou les capacités dont chaque personne dispose. Ça veut dire que là aussi, c'est une manière de dire qu'il ne suffit pas, évidemment, enfin, c'est une manière de dire qu'il ne suffit pas de poser d'affirmer que les gens ont des droits et que ça suffit de le dire. Et que, étant donné qu'on a posé ces droits-là, on peut par ailleurs les traiter comme des pions. Vous voyez? C'est un peu ce qu'on a reproché, enfin, c'est ce qu'on les limites de la Déclaration des droits de l'homme. C'est de dire, bon, bah, alors oui, nous avons tous, nous sommes tous nés libres et égaux en droit. Mais tout porte sur qu'est-ce qu'on entend par droit? Alors, dans la déclaration, les droits sont au pluriel, justement. Ça veut dire que c'est plus que de la théorie. Mais si on entend par droit ce que, justement, Martha Nussbaum et le courant dans lequel elle s'inscrit, donc sous le nom du paradigme du développement humain ou du progrès, entend, ces droits, ce sont des chances ou des capacités. C'est-à-dire des choses très concrètes. Ce n'est pas des textes. C'est des capacités, c'est-à-dire des choses concrètes dont chaque personne doit disposer dans des domaines essentiels qui vont de la vie, de la santé et l'intégrité corporelle à la liberté, à la participation politique et à l'éducation. Ce modèle de développement. Attendez, je vois qu'il y a des questions, je crois. Mince. Converser. Parce que quand je partage mon écran, je ne vois pas la. Ah, voilà. Toc. Ah, alors c'est un. Oui. En effet. Ah bon, ben, oui, oui, ben, c'est ça, exactement. Enfin, Sylvie met dans la fenêtre du chat une anecdote pour illustrer cette question des ressources humaines et de l'antagonisme de l'antagonisme violent entre empathie et capitalisme. Tout à fait. D'après ce modèle, l'important, ce sont les chances ou les capacités dont chaque personne dispose, je viens de le dire. Ce modèle de développement reconnaît que tous les individus doivent être respectés par les lois et les institutions. Une nation est décente. Et vous voyez, une nation est décente, c'est très concret. C'est une façon de dire, il suffit pas de l'avoir dans. Il faut que ça soit inscrit dans les constitutions et il faut que le système soit organisé de façon à ce que la nation soit décente. Une nation est décente si elle reconnaît que ses citoyens ont des droits dans ces domaines, entre autres, et élabore des stratégies pour les élever au-dessus d'un seuil minimal. Les élever, ça veut dire que chaque personne doit compter en ce sens, c'est-à-dire que les plus faibles doivent être pris en considération de sorte que une nation est décente si elle ne cherche pas simplement à élever ceux qui sont déjà dans le haut de la fourchette, si on veut, de la hiérarchie, mais si au contraire, elle va à l'encontre de la hiérarchie et si elle élève ceux qui sont les plus vulnérables et les plus affaiblis. Vous voyez? Puisque la hiérarchie, c'est encore une fois, là aussi, hein, c'est la hiérarchie est contraire à la démocratie, à l'égalité démocratique. C'est dans un autre passage du livre, hein, qu'elle mentionne ça. Le modèle du développement humain soutient la démocratie, puisque le fait d'avoir son mot à dire dans le choix des mesures politiques qui gouvernent sa propre vie, est un élément essentiel d'une vie humaine digne. Ah, j'ai failli la mettre en gras parce que je trouvais là, avec le contexte dans lequel nous sommes, où nous avons l'impression de subir toutes les décisions politiques depuis un an, et que on a l'impression que ça ne pourrait pas être autrement, alors qu'en même temps, on se dit depuis un an, on devrait pouvoir réfléchir ensemble. Être consultés, dialoguer ensemble sur les décisions qui sont actuelles. Et ce serait une manière d'être encore citoyen et citoyenne. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je pense que c'est quelque chose qui manque singulièrement et qui peut exacerber les violences qu'on va observer et qu'on observe déjà, mais qu'on va observer, puisque plus les personnes vont se sentir exclues du politique, plus ça va générer des violences, à mon avis, sociales, graves. Bon, alors, je reviens au texte, mais il me semble, quand elle dit le modèle du développement humain soutient la démocratie, puisque le fait d'avoir son mot à dire dans le choix des mesures politiques gouverne sa propre vie est un élément essentiel d'une vie humaine digne. Ça me paraît fondamental pour comprendre que quand il y a des phénomènes de violence, il peut y avoir des phénomènes de violence sociale qui sont liés justement à ce manque de prise en compte des individus, notamment des plus jeunes et des plus faibles, dans le choix des mesures politiques qui gouvernent leur vie. Vous me suivez? Le type de démocratie défendue accordera toutefois aux droits fondamentaux un rôle crucial qui ne pourra pas être remis en cause par le caprice de la majorité. Il favorisera donc des protections solides de la liberté politique, des libertés de parole, d'association et de culte et des droits fondamentaux dans d'autres domaines comme la santé et l'éducation. Donc voilà, là il est question de protection solide, ça veut dire que les droits en question ou les capacités sont ce qu'une nation décente, une nation démocratique doit protéger. en ayant une attention tournée vers les plus vulnérables, ceux qui sont les moins visibilisés par la hiérarchie. Si un pays souhaite promouvoir ce type de démocratie soucieuse des individus, désireuse de promouvoir le droit à la vie, la liberté et la poursuite du bonheur pour chacun, ce qu'on considère comme des libertés fondamentales, quelle capacité doit-il susciter chez ses citoyens? Les points suivants semblent essentiels. Premièrement, la capacité de raisonner adéquatement sur les questions politiques qui concernent le pays, d'examiner, de réfléchir, d'argumenter et de débattre sans s'en rapporter, pardon, à la tradition ni à l'autorité. Alors rien que cette phrase, on pourrait y passer des heures. Parce que ça veut dire quoi? Bah, évidemment, il est question de philosophie. Or, la philosophie, mais pas seulement, mais la philosophie et la place de l'esprit critique, enfin, l'attention qu'on donne au développement de l'esprit critique au cours de l'éducation. La capacité de raisonner adéquatement sur des questions politiques qui concernent le pays, alors qu'il y a plein de gens qui se sentent exclus ou incapables de raisonner là-dessus, soit par manque d'information, soit par sentiment par complexe, ou en tout cas le sentiment de ne pas avoir reçu une éducation qui nous permette de raisonner sur les choses politiques, de raisonner sur les questions politiques. Et plus encore, vous voyez, de débattre sans s'en rapporter à la tradition ni à l'autorité. C'est-à-dire, là c'est important, sans s'en rapporter à la tradition ni à l'autorité, parce que justement, alors les pédagogues auxquels se réfère Martha Nussbaum mettent, alors il y a tout un passage hein, sur les pédagogues en question, donc si ces questions-là vous intéressent, je vous invite vraiment à aller voir les chapitres concernés. Et puis sur le Discord, je pourrais vous mettre des compléments. Hein, je pourrais vous mettre des choses. N'hésitez pas à me dire. Mais là, je vais pas pouvoir vous prendre le temps de vous donner les pages, etc. Mais l'importance d'avoir une capacité ou un goût même pour l'analyse des erreurs des discours qu'on entend. C'est un truc qu'elle mentionne, mais dans l'éducation, on doit pouvoir accorder une place importante à cet esprit critique qui a plusieurs pôles. Hein. L'esprit critique, c'est à la fois le fait de repérer des erreurs d'analyse et d'être capable de produire des idées par soi-même, de penser par soi-même, donc c'est bien le but de la philosophie, entre autres. Mais c'est aussi la capacité de dire qu'on n'est pas d'accord. Or, ce qu'elle montre ailleurs, et puis ce qui, évidemment, ce qu'on observe, c'est que la violence démocratique, la violence de la stigmatisation et de la discrimination, fonctionne en général sur le ressort grégaire, c'est-à-dire le fait que le groupe a tendance à être docile. Il y a une docilité du groupe qui fait que on attend que quelqu'un dise qu'il n'est pas d'accord pour oser se ranger derrière lui. Et donc elle dit le plus difficile, c'est de créer une société dans laquelle il va y avoir rapidement au moins une personne qui va être capable de dire, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Et alors, bah évidemment, s'il y a une vivacité d'esprit critique, il y aura une vivacité qui ira à l'encontre de la stigmatisation. Vous voyez? Au lieu d'avoir des groupes qui se stigmatisent. Donc, il faut à la fois, l'esprit critique, c'est à la fois cette capacité d'analyse et de repérer des erreurs logiques, de chercher les informations pour éclairer son jugement quant au sujet politique, mais c'est aussi la capacité de dire, de désobéir, de façon à faire que la société ne soit pas, soit une société démocratique, c'est-à-dire de faire qu'il n'y ait pas que des groupes qui se stigmatisent, mais qu'il y ait toujours une attention portée vers tous les individus, vers chaque individu. Ça va? Donc là, c'est résumé en une phrase, mais en fait, ça, elle en parle énormément. Par ailleurs, je vois qu'il y a un autre question, commentaire. Hop, hop, hop. C'est donc pour ça que la France est une référence. Il y a toujours quelqu'un pour dire qu'il n'est pas d'accord. Oui, alors. Alors, bon, je ne sais pas si justement ça marche, parce qu'il y a, y a, y a, y a, il peut y avoir quelque chose de grégaire hein, aussi. Enfin, en tout cas, il faut pouvoir exercer sa capacité d'esprit critique par soi-même. Donc, sans avoir besoin de s'identifier à un groupe. Qui ferait porter une voix et qui, du même coup, serait forcément une voix qui nierait des individualités. Ça, c'est pour l'esprit critique, mais elle y accorde énormément d'importance et elle s'appuie sur des pédagogues qui ont beaucoup travaillé sur le développement de l'esprit critique chez les enfants, par la philosophie ou par une certaine pratique du débat philosophique du débat socratique. Deuxième point, la capacité, donc ce que les points suivants semblent essentiels pour qu'un pays puisse promouvoir ce type de démocratie. Le deuxième point, c'est la capacité de reconnaître ses concitoyens comme des personnes dotées de droits égaux, aussi différents qu'ils puissent être par la race, la religion, le genre et la sexualité. Les considérer avec respect comme des fins et non de simples outils à manipuler pour son propre avantage. Alors là, il y a deux choses que je vous ai dites tout à l'heure, hein, mais c'était volontaire que je vous les ai dites tout à l'heure. D'abord, il y a la capacité de reconnaître ses concitoyens comme des personnes dotées de droits égaux. Capacité de reconnaître, ça englobe tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'imagination empathique, parce que donc l'attention, c'est donc, enfin, c'est la capacité de reconnaître ses concitoyens comme des personnes dotées de droits égaux, donc comme des personnes à part entière. Comme des êtres humains à part entière, ça va être si je me rapporte à autrui comme à un être qui a une histoire et une souffrance, je ne vais pas pouvoir le manipuler aussi facilement que si au contraire je ne perçois pas ça chez lui. Troisième point, la capacité de se préoccuper de la vie des autres, de comprendre ce que différents types de mesures politiques signifient pour les possibilités de vie et les expériences de tous ses concitoyens, ainsi que des étrangers. Donc, la capacité de se préoccuper de la vie des autres, c'est ce qu'on a par ailleurs dans d'autres sessions, au sujet d'autres ouvrages, appelé le care, se soucier de la vie des autres, se soucier du soin, du vivant et des humains. De comprendre ce que différents types de mesures politiques signifient pour les possibilités de vie. Alors, vous voyez quand même le type de compréhension que ça suppose, c'est pas rien. Ça veut dire que quand on envisage une mesure, il faut être capable d'envisager cette mesure pas simplement pour soi, mais de tout de suite relier la mesure dont on entend parler à ce que vivent les gens qui sont visés par cette mesure. Vous voyez? Ça veut dire par exemple que je vais donner un exemple qui n'est pas dans le texte, mais qui me paraît. Mais je pense que j'en reparlerai dans un épisode de podcast bientôt. Quand on prend des mesures, par exemple, pour empêcher les mères voilées d'accompagner leurs enfants dans les sorties scolaires, ça veut dire que les aborder de manière démocratique, ça n'est pas penser depuis son point de vue. C'est penser à ce que ça implique pour les personnes concernées. Vous voyez, la capacité de se préoccuper de la vie des autres, de comprendre ce que différents types de mesures politiques signifient pour les possibilités de vie et les expériences de tous ces concitoyens. Ça veut dire être capable de relier le type de souffrance qu'une mesure qu'on envisage et qui a même été prise va générer. Vous voyez ce que je veux dire? À ce moment-là, on se place sur un air de débat. Je ne dis pas que, vous voyez, là, je dis juste, on déplace. Ça ne présage rien du type de point de vue qu'on va défendre, enfin, du type d'opinion qu'on défendra. Mais on pourra être en désaccord même. Mais le faire de manière politique, c'est le faire depuis un point de vue où on est tous en train de prendre en considération les possibilités, l'impact des mesures qu'on prend sur les possibilités de vie et les expériences de tous les concitoyens ainsi que des étrangers. Vous voyez ce que ça implique? C'est sortir du domaine soi-disant neutre, qui n'est jamais neutre, de notre type de culture, et c'est plutôt envisager la violence que ça peut générer sur certains individus et être capable de se projeter. Alors qu'en général, on a un blocage, on empêche pour rester dans nos préjugés. Voilà, on empêche ce type de considération. C'est humain et c'est pour ça que ça demande beaucoup de travail de cultiver la démocratie en soi. Je vois un autre. Ce que je ne comprends pas, c'est que précisément l'humain est un être ultra grégaire. Peut-il seulement biologiquement et socialement fonctionner autrement? Oui. Alors, enfin oui, je ne dis pas que c'est facile, mais pour répondre à la question d'Éléonore, il me semble que c'est tout l'intérêt de ce que Martha Nussbaum articule en accordant beaucoup d'intérêt à la psychologie et à la psychologie sociale. C'est-à-dire comment, dans nos états, nous nous relions aux autres, mais nous nous divisons aussi. Et il y a en nous des dispositions qui individuellement vont nous relier, alors grégaires, enfin vont nous relier aux autres, et il y a des dispositions qui vont nous, c'est ça. C'est pour ça que quand elle parle de l'empathie, elle précise, elle dit attention, il faut développer un certain type d'empathie, parce qu'il y a un autre type d'empathie qui sera une forme d'empathie qui va justement nous encourager à la stigmatisation et la discrimination. C'est quand je vais entrer en empathie avec les gens qui sont comme moi. Vous voyez un petit peu? Et donc, il va y avoir un esprit de corps comme ça. On va faire groupe. On va développer son empathie, mais en la réservant aux personnes qui font partie de notre groupe. Alors que le type d'empathie que suppose la démocratie, c'est au contraire une empathie avec les personnes qui ne sont pas immédiatement de mon groupe et que je suis capable en fait de regarder comme des êtres humains, comme des autres. Ça va? Vous me suivez? Donc voilà pour la capacité de se préoccuper de la vie des autres et de comprendre ce que différents types de mesures politiques signifient pour les possibilités de vie. Point suivant. La capacité d'imaginer, alors j'ai fait une faute de frappe, il manque un « et ». La capacité d'imaginer une variété de problèmes complexes qui affectent l'histoire d'une vie humaine dans son déploiement. Penser à l'enfance, à l'adolescence, aux relations familiales, à la maladie, à la mort, etc., en se nourrissant de la compréhension d'un vaste ensemble d'expériences humaines et pas seulement en agrégeant des données. Alors, je vous l'ai un petit peu dit hein, quand je vous ai dit que voilà, c'est se rapporter à autrui comme porteur de tout cela. C'est quelque chose qui est difficile, mais plus on s'entraîne, et en fait, ça va avec ce qu'on appelle l'ouverture d'esprit. Quand on est capable d'être ouvert d'esprit, en général, je pense, j'essaye de relier à des expériences communes hein, qu'on peut faire dans un langage commun, on observe que l'ouverture d'esprit, elle va avec une rapidité des gens à être capable de ne pas juger, préjuger d'autrui sur une étiquette ou une surface qu'on voit, mais à être capable immédiatement de se dire qu'en fait, il y a des choses qu'on ne sait pas et que ces choses qu'on ne sait pas, ça doit être ces choses qui doivent nous empêcher de préjuger, de stigmatiser. Vous voyez un petit peu? Donc, à ce moment-là, la personne humaine a une densité tout de suite qui fait que elle va être considérée comme une personne humaine. Mais ça suppose de chacun et chacune d'entre nous d'avoir cette capacité d'imaginer une variété de problèmes, puisqu'on ne va pas les connaître. Il ne faut pas attendre des personnes qu'elles les racontent. Il faut les postuler. Il faut être capable d'imaginer une variété de problèmes complexes qui affectent l'histoire d'une vie humaine dans son déploiement. Point suivant, la capacité de juger les décideurs politiques avec esprit critique, mais avec un sens réaliste et informé des possibilités qui leur sont ouvertes. Donc, on en a parlé aussi un petit peu. Pour vivre en démocratie, il faut être capable de mettre en question les décisions politiques qui sont prises. Mais encore une fois, là, pour le coup, ça va peut-être répondre à la réaction de Ronan. Oui, Mais l'esprit critique n'est pas forcément un esprit d'opposition systématique. Il faut pouvoir articuler cet esprit critique à ce qu'elle appelle un sens réaliste et informé des possibilités qui sont ouvertes. Ça veut dire qu'il faut d'abord connaître ces possibilités et faire connaître ces possibilités et ensuite évaluer la décision politique. La capacité, point suivant, l'avant-dernier, la démocratie suppose la capacité de penser au bien du pays dans son entier et pas seulement à son groupe spécifique. Ça, je l'ai vu plusieurs fois. Et dernier point, la capacité de voir ensuite son propre pays comme une fraction d'un ordre mondial complexe où se posent des problèmes de différents ordres dont la résolution exige une délibération transnationale intelligente. Alors, ne serait-ce que le début, la capacité, avoir la capacité de voir son propre pays comme une fraction d'un ordre mondial complexe où se posent des problèmes de différents ordres, c'est fondamental et ça, elle en parle. Il y a un chapitre notamment où elle montre comment nos démocraties sont mondialisées. Mais du coup, enfin, en fait, il n'y a pas de démocratie possible sans une connaissance de cette mondialisation, puisque il faut que je sois capable, et donc c'est pour ça qu'elle dit que dans l'éducation, il faut pouvoir enseigner la géopolitique, mais aussi ben voilà, les situations économiques des autres pays et tout le processus de production économique qui se cache derrière chaque objet qu'on consomme. Parce qu'en fait, voilà, la capacité de voir mon propre pays comme une fraction d'un ordre mondial, c'est être capable de rattacher mon action à l'impact que ça a sur la vie démocratique de tous les êtres humains dans le monde. Vous voyez? Et ça suppose qu'on enseigne dès l'enfance tout le processus qui est en général justement caché, soigneusement caché, tout le processus de production et les conditions de vie, etc., des personnes qui sont impliquées par le système dans lequel on s'inscrit. Donc, entre autres, par exemple, là, dans la consommation, ben, les travailleurs, la chaîne des travailleurs et travailleuses, il faut pouvoir être capable de situer, de relier du même coup mon achat à l'impact que ça a à l'échelle mondiale. Et la démocratie n'est pas possible sans cette considération-là. Donc pareil, dans l'éducation du citoyen et de la citoyenne, il y a forcément une prise en compte de... Il doit y avoir une connaissance. Et ça, encore une fois, c'est les humanités. Ça entre dans les humanités, hein, dans la science politique, mais aussi l'histoire, qui nous permet de comprendre comment les phénomènes politiques et humains et sociaux sont liés les uns aux autres, et encore plus à notre époque, puisque nous n'avons jamais été aussi mondialisés qu'aujourd'hui. On le voit bien d'ailleurs aussi avec la pandémie. Ce n'est là qu'une esquisse, mais elle permet au moins de commencer à exprimer ce dont nous avons besoin. Donc, le programme d'une société démocratique, ça doit être de faire une éducation qui vise à développer toutes ses capacités et faire une politique qui vise à développer toutes ses capacités. Et vous voyez que toutes ces capacités supposent des émotions, de l'imagination, une vie psychique particulière à laquelle s'oppose ce que je vous ai dit, mais vraiment je vous invite à lire les passages sur la honte et le dégoût, parce que ça me semble, enfin moi depuis quand j'ai lu ça, ça m'a fait une lumière, et il me semble aussi, alors on en parle beaucoup hein, de la question, dans les théories du cœur on parle beaucoup de la vulnérabilité, dans la critique du patriarcat on met beaucoup en avant justement le fait d'avoir méprisé la vulnérabilité, d'avoir méprisé tout ce qui prend soin de la vulnérabilité, d'avoir construit un modèle politique qui vise à nier la vulnérabilité humaine et donc à cultiver la domination. La lutte contre la domination est forcément une lutte qui doit réhabiliter la capacité à comprendre la vulnérabilité et à la placer au premier ordre. Ça va? Je vais partager, je vais arrêter de partager pour pouvoir vous revoir parce que là, je ne vous vois pas tous. Voilà. Alors, une fenêtre de chat. Alors, le livre date, donc c'est Sylvie qui demande de quand date ce livre de Martha Nussbaum. Il date de 2010 et il a été traduit très rapidement en 2011. Éléonore, mais l'humain se développe de façon tellement aléatoire, l'enfant qui va se construire dans l'opposition au schéma ou valeurs inculquées, de façon plus globale, oui. Non, non, alors je pense que tu comprends tout à fait, Éléonore, simplement. Il me semble que le pivot, bon, de toute façon, rien n'est exhaustif, hein, mais le pivot, c'est le pivot, et je pense que là aussi, si vous pensez à des images de films, de bouquins qui vous ont. De Star Wars, comment Anakin devient Dark Vador en. Alors, c'est un peu vieux, je suis désolée pour moi, mais enfin, je crois quand même que si je me trompe dans les prénoms, vous me dites. Il y a un rapport à la vue, c'est-à-dire les questions de domination, ou les questions du passage à la violence, ou du développement, de la façon dont un être humain va devenir violent, la façon dont un être humain devient violent est toujours liée à la façon dont il perçoit ou dont il a été conduit à percevoir sa propre vulnérabilité, à se dresser contre elle. Si c'est comme ça qu'il a compris qu'il fallait qu'il se développe. Vous voyez? Donc, au-delà de la référence à Anakin et Dark Vador, que je garde pour plus tard, oui, je pense que c'est ça qui est vraiment en jeu. Et on le voit si on voit comment on va éduquer des gens à être violents. C'est là-dessus qu'on agit. Quand il y a, voilà, dans des dispositifs ultra-disciplinaires où il est question d'apprendre aux gens à être violents, et il y en a plein dans le monde, malheureusement, des dispositifs pour rendre les gens aptes à faire la guerre, à torturer, etc. À violer, bon, enfin voilà, tout ce qu'on peut voir malheureusement dans le monde. Quand ce type d'éducation, si on veut, est une éducation qui va cultiver justement un rejet de la faiblesse humaine et qui va mettre, développer, qui va creuser dans chaque individu une distance entre lui et la vulnérabilité. Sa propre vulnérabilité, son humanité du même coup, et par là sa capacité à sacrifier l'humain en lui et en l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est évidemment radical dit comme ça, mais c'est quand même comme ça que ça se passe. C'est-à-dire quand on est capable de considérer un être humain comme un objet sexuel, un objet de guerre, un objet quel qu'il soit, un objet domestique. Il y a un détachement, c'est-à-dire qu'on se déconnecte de la part d'humanité qu'il y a en l'autre. Et pour le faire, il faut être capable d'une certaine façon de se déconnecter de sa part d'humanité en soi. Parce que ce qui nous relie les uns aux autres, c'est un fond d'humanité qui consiste dans la souffrance, la capacité de souffrir, la capacité d'être fragile. Et c'est ça qui fait l'humain, malgré tout. Il y a une forme d'universalisme dans la souffrance humaine, dans ce que Pascal appelait la finitude, mais voilà, toute vie est une vie qui est capable de souffrir. Pour nier ça, pour cultiver la domination, on va s'opposer. On va essayer d'encourager les gens à ne pas tenir compte de cette faiblesse-là. Alors, ça va prendre des formes différentes, mais dans tous les cas, c'est là-dessus qu'on va agir pour rendre les gens aptes à dominer autrui, c'est-à-dire aptes à ne pas prendre en compte la souffrance d'autrui comme une souffrance à part entière et à ne pas regarder autrui comme une fin, comme un être égal en tant que personne. Ça va? Je suis obligée de m'arrêter là pour des questions de timing. Est-ce qu'il y a vous avez des questions, des réactions? Il est 19h57, hein, je le dis pour l'audio du replay. Voilà, n'hésitez pas, s'il y a des questions, une question au moins à laquelle je peux répondre, ou une réaction qui va. Dominique.
Oui, alors c'est passionnant, ça me paraît très très ambitieux, évidemment, c'est un peu une vision idéale qui est présentée là. Je me pose la question quand même de la, enfin voilà, de notre capacité à tout à chacun à appréhender la complexité des liens et des phénomènes. Voilà, quand tu parlais de géopolitique, d'économie générale, etc., c'est d'une telle complexité que c'est, voilà, quasiment impossible à appréhender. Il y a d'une part cet aspect-là au niveau de la connaissance. Après ça, l'empathie, ben c'est aussi l'incapacité dans laquelle on se trouve d'être enfin, d'entrer en empathie avec toutes les souffrances qui nous entourent, ou alors on est complètement soi-même. Enfin, comment faire ça sans être anéanti soi-même? Déjà, donc voilà. Et du coup, je sais pas, moi, je me dis quel rôle de la confiance. Est-ce que faire confiance à quelqu'un après avoir effectivement expérimenté la personne, ses idées, etc., est-ce que, enfin, je sais pas, la confiance réciproque, c'est quand même pas un ciment, quelque chose de solide sur le quoi on peut construire. Et donc qui ne vous force pas à tout maîtriser, mais simplement, voilà, on sait qu'on ne peut pas tout maîtriser, donc on entre en confiance avec des personnes qu'on a choisies, etc., et qui nous permettent d'avancer quand même sans tout maîtriser.
Oui, il y avait beaucoup de questions, Dominique. J'ai donc 2 minutes. Alors, sur la première question, est-ce que c'est pas un peu ambitieux? Clairement, elle le dit, c'est un manifeste. Un manifeste, c'est ambitieux. C'est-à-dire que ça annonce comme quelque chose comme un programme. C'est pas une utopie, mais c'est un manifeste, c'est-à-dire c'est un programme d'une bonne politique, si on veut, d'une politique démocratique. Néanmoins, quand même, j'ai envie de te dire en quoi je trouve que finalement, moi je trouve ça bizarrement, ça à la fois très ambitieux, parce que là le texte est vraiment le texte, je l'ai choisi justement parce que c'est le texte programmatique, hein, qui énonce un peu tout le programme, mais si on entre dans l'ouvrage, on passe par au contraire plein de détails très concrets, tout à fait actionnables. Certains types de pratiques éducatives qui se font. En fait, elles collectent des choses qui se font et qui ont été testées, notamment elle s'appuie beaucoup sur Tagore, donc qui est à la fois un poète et un pédagogue et qui a fait pas mal d'expérimentations. Elle s'appuie sur et elle montre comment finalement, quand il y a eu justement des Gandhi, enfin quand il y a eu des grandes émancipations. Qui ont pris en compte le fait que ça ne pouvait pas passer autrement que par une réforme de l'éducation et une prise en compte de tous ceux qui sont exclus justement du système éducatif standard, dominant en fait, puisque. Alors, c'est à la fois donc très ambitieux et en même temps, tu vois, je pense que en très peu de temps, on peut au moins comprendre à l'école, etc. Mais moi j'ai l'impression que moi j'ai pas reçu cette éducation par exemple. Mais enfin on essaye de se la faire. Enfin moi j'essaye de me la faire un peu tard, mais de comprendre justement le phénomène de la mondialisation, de comprendre. Maintenant on en parle, on a des vidéos, etc. Mais c'est encore très lent. Si on arrivait à penser qu'on l'apprendrait aux enfants dès maintenant, comme on le fait un peu pour l'écologie, etc. On peut comprendre qu'on va produire une autre société. Mais si ça fait partie des piliers de l'éducation, pas le petit bonus qu'on fera dans certaines écoles et pas toutes, etc. Si on en fait des piliers de l'éducation, toutes on parle aussi de la philosophie pour enfants, si on considère que deviennent des piliers de l'éducation des choses qu'on considère comme des fioritures, pour reprendre le terme qu'elle utilise, et que j'ai vu d'ailleurs dans d'autres articles, hein, qu'on considère comme des fioritures les humanités, les matières littéraires, les choses comme ça, que c'est un peu du luxe, mais en fait, la base de la base, hein, c'est surtout de savoir faire certaines choses qui vont nous rendre aptes à avoir une place sur le marché. Si on considère qu'au contraire, ce que tu dis être des connaissances complexes devient un pilier de l'éducation, ça ne sera pas si complexe que ça, je pense. Je pense qu'on peut assez facilement comprendre le chemin de production, pourquoi il y a des trucs made in China, pourquoi il y a des trucs made in France, quelle est la différence entre les deux, comment ça peut se passer, quels sont les pays qui respectent les droits de l'homme, qu'est-ce que le droit du travail, pourquoi il y a des pays où il n'y a pas de droit du travail, etc. Je pense que si on acquiert des connaissances un petit peu comme ça et qu'on se les transmet, comme on s'en transmet d'autres, on pourra produire d'autres citoyens, puisque c'est un peu comment former le citoyen du 21e siècle, il est question de ça. Évidemment, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais c'est un processus de formation. Sur la question de l'empathie, alors, je ne sais pas si on peut en effet entrer. Il y a Voilà, je comprends ce que tu dis tout à fait, hein, dans l'idée qu'on serait submergé par toutes les expériences des gens qu'on croise, la pauvreté, l'exclusion, et qu'on serait finalement, on pourrait se rendre impuissant comme ça, parce qu'on aurait le sentiment encore plus de. Alors ça, c'est une façon peut-être en effet de voir les choses. Et je crois que c'est pour ça que j'aime bien plutôt ce qu'elle dit sur l'imagination empathique, c'est-à-dire d'être juste au moins capable de ne jamais percevoir, de ne jamais rendre autrui invisible. Parce qu'en fait, c'est ça qui se passe. C'est que notre système, la violence de notre système est liée au fait il y a des choses qu'on ne peut pas voir, qu'on n'est plus capable de voir, qu'on n'est pas capable de voir. Parce qu'on est complètement déboussolé. Soit parce qu'on le préjuge, soit parce qu'on a l'impression qu'on n'arriverait pas à assimiler ces informations. Mais si l'imagination empathique, voilà, si au moins on arrive à ne pas invisibiliser, on pourrait faire corps et là entrer dans ce que tu dis, c'est-à-dire des systèmes d'entraide, de confiance, etc. Mais le gros problème de notre société, c'est l'invisibilité. C'est le gros problème du capitalisme et de la façon dont ça fonctionne et dont la violence fonctionne, la violence en tant que violence. Aliénante, capitaliste, objectivante, c'est tout simplement le fait de ne pas être capable de percevoir une vie comme vivante, une personne comme une personne. Et ça, bon, il y a beaucoup de choses aussi sur l'invisibilité sociale, hein, là-dessus, mais ça croise ça. C'est comment se rendre capable de voir un être humain. C'est déjà ça, quoi. On aura déjà, voilà. Jacqueline.
Oui, moi j'ai trouvé ça, mais ultra, ultra, ultra passionnant. Et ça m'a évoqué beaucoup de choses. Je me suis beaucoup retenue pour ne pas parler. Moi j'ai l'impression que j'ai reçu une éducation assez comme ça, avec beaucoup de respect de l'autre et développement de l'esprit critique. Et c'est un peu ce que j'ai transmis à mes filles. Et je me suis heurtée à un problème, c'est que mes filles rentraient de l'école et étaient confrontées à des enfants qui n'avaient pas du tout la même éducation et quelque part qui se faisaient bouffer, si tu veux, par... Tu vois ce que je veux dire?
Par le système, tu veux dire.
Ben, concrètement, à l'école, par des enfants qui étaient élevés dans la concurrence et dans le. Et finalement, qui souffrent. Mes filles se retrouvaient à souffrir de l'éducation qu'elles avaient reçue parce qu'elles étaient minoritaires.
Oui, mais alors ça conforte hein, que ça se joue aussi à l'école, etc. C'est que le moment où on comprend qu'on a intérêt à être en concurrence et à acquérir certaines. Enfin voilà, oui, l'école, elle est vectrice de cette violence sociale-là aussi. C'est pour ça que l'éducation dont il est question, elle le dit aussi au début, hein, c'est En fait, voilà, il est question de l'éducation parentale et de l'éducation scolaire et du système culturel au sens où la culture nous apprend, même nous adultes, hein, elle nous apprend à certaines choses et elle désapprend aussi certaines choses. Donc, c'est l'éducation au sens global. Je vais terminer. Oui, excuse-moi.
Moi, j'étais confrontée à cette limite-là.
Ouais. Ben oui, mais je comprends. Je comprends. Et c'est pour ça que vraiment, elle parle de l'éducation en tant qu'elle doit être prise en charge par l'État et en tant qu'elle doit être en plus, ses capacités-là doivent être inscrites dans la Constitution. Donc, il y a aussi une base, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Et donc, enfin, elle prend des exemples du fait qu'il faut au moins que ça soit inscrit dans une Constitution. Et qu'à partir de là, ça serve de base pour l'éducation, et que dans ce type d'éducation. Mais elle donne plein d'exemples très concrets, très empiriques, de façon dont certains États ont géré des choses, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, hein, mais aussi la façon dont on a cultivé l'indifférence, voilà, la concurrence extrême et l'indifférence de façon à rendre un pays ultra productif. Et d'autres pratiques qui, au contraire, sont émancipatrices parce qu'elles visent à développer des aptitudes démocratiques.
Y a-t-il un pays qui fonctionne comme ça?
Ben alors, il faut que tu le lises, mais c'est pas si noir, si blanc. Enfin, elle se réfère beaucoup à des passages, notamment en Inde, autour de Tagore. Mais bon, l'Inde est quand même un pays avec des castes et des bon, donc c'est délicat. Mais il y a eu beaucoup de production. Enfin, voilà, faut. Je pourrais peut-être en rebondir après. Là, je voudrais faire un petit tour parce que j'avais dit que je terminerais à 20h pétante. Bon, alors quand même, mes filles ne sont pas, vous voyez, elles ne m'ont pas dérangée quand même. Elles ont remporté leur challenge d'autonomie là. Alors, je voudrais faire un petit tour pour savoir comment ça a été pour vous. Hélène, comment ça a été pour toi?
Alors, ça a été bien, très bien, très intéressant, trop rapide, ça passait vite, comme d'habitude. Et voilà, j'ai trouvé ça vraiment bien vu, j'étais contente de ce que j'ai entendu, mais vraiment, ça a le goût de trop peu, mais c'était très, très intéressant, Peggy, merci beaucoup.
Oui, bah oui, pour moi aussi en plus, hein. Mais bah écoutez, on pourra rebondir sur des discussions, soit sur le Discord, ça sert à ça aussi, ou bien vous me posez des questions, peut-être que je pourrais reconsacrer un épisode de podcast sur une question qui reviendrait parmi les vôtres, enfin voilà, ou un chapitre précis du livre, je vais voir comment on peut faire ça. Maya, c'était ta première participation, comment ça a été pour toi, découverte du book club?
Ouais, très bien, merci beaucoup. Ouais, passionnant. Je pense que je vais avoir 12 000 questions, mais là, ça diffuse. Mais c'est vrai que j'ai, enfin, c'était hyper riche en fait, parce que j'ai effectivement plein de questions qui me sont venues, mais que j'ai pas posées parce que je pense qu'elles mèneraient sur d'autres sujets en fait. Donc je voulais pas qu'on s'éloigne du sujet. Mais je trouve génial. C'était une autrice que je connaissais pas du tout, une philosophe que je connais pas du tout. Donc ça m'intéresse énormément. Voilà, moi ça me fait pencher à d'autres choses que j'ai entendues ou vues sur justement la culture populaire, où j'ai pensé aux sagesses des peuples autochtones aussi, parce que eux ont une organisation de leur société qui fait pas intervenir les mêmes choses que nous justement, et qui sont aussi dans une certaine mesure démocratique. Donc voilà, je vois, il y a des choses comme ça qui ça a fait résonance avec des autres lectures. Sur le sujet. Donc, passionnant, merci beaucoup.
Ben, merci à vous pour votre participation. Catherine, comment ça a été pour toi? Catherine aussi, c'était ta première participation.
Oui, première. Très enrichissant, vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Je la connaissais pas du tout, Martha Nussbaum. Donc, j'ai vraiment envie de lire ses ouvrages. Donc, elle a travaillé sur le dégoût et la honte, c'est ça? Voilà. Donc, ça me donne vraiment envie de les lire. J'ai l'impression que c'est beaucoup dans la psychologie aussi, hein, la manière dont on a parlé ce soir au niveau. Ouais, c'est vraiment la psychologie. J'avais l'impression, donc, je voyais. On parlait de souffrance, etc. Par exemple, j'imaginais un grand dictateur comme Staline, etc. Quand même, vraiment, c'est au niveau de la psychologie, je veux dire, les grands narcissiques, en fin de compte, c'est ça. Je pensais à ça quand on parlait de la psychologie, des dérives que ça peut amener. J'ai pensé à ça. Je ne sais pas si c'est.
Oui, oui, bah oui, je pense. Oui, alors elle s'appuie beaucoup sur la psychologie, mais enfin beaucoup de travaux de psychologie. Mais comme je le disais, hein, ça, elle est quand même professeure de droit, donc mais elle relie le tout, quoi. C'est ça que je trouve très intéressant. C'est que du coup c'est très ancré. Oui, au revoir Edouard. De toute façon, oui, au revoir Edouard. Ça a été vite fait? Ça a été? Ok, super. À bientôt Edouard. Je termine mon petit tour vite fait. Mais si vous devez partir absolument, vous allez-y. Hein. Dominique, comment ça a été pour toi?
Ben, très très bien, enfin très très bien, oui, c'était, ça m'a ouvert encore plein de nouvelles fenêtres comme à chaque fois. Et du coup là, peut-être la question qui me vient, c'est un petit peu dans quel type de culture ou dans quelle culture du monde voilà, cette façon de voir fait le plus écho. Enfin voilà, ça m'intéresse de confronter cette façon de voir avec les différentes cultures du monde, quoi, savoir. Bon, il y a les cultures effectivement autochtones, mais il y a peut-être aussi d'autres cultures. Voilà.
Oui, bah oui. Mais alors si justement, si vous vous plaît, alors le livre est accessible, hein, donc si, enfin il est voilà, il est vraiment accessible. Il n'est pas dans un jargon inaccessible, c'est ça que je veux dire. Donc et c'est intéressant parce qu'elle parle justement d'autres fonctionnements, d'autres pays, d'expérimentations qui ont été faites, donc c'est intéressant. Sylvie. Sylvie, c'était ta première participation aussi.
Ça y est, vous m'entendez quand même?
Oui.
Je sais pas si vous pouvez m'entendre. Donc oui, première participation, j'en suis vraiment enchantée. Et c'est vrai que je trouve que le point de vue de Martha Nussbaum est quand même très, très américano-centré. Voilà. Alors j'aurais voulu savoir si sur Discord, après, on s'attache tous ensemble à démonter un petit peu certains arguments, et surtout pour aller beaucoup plus loin. Parce que moi, ça, c'est une préoccupation que j'ai depuis un petit moment, c'est penser la malveillance. Penser la malveillance. Et je pense, bon, bah, il y a Dominique qui en a déjà parlé, voilà, il y a des gens qui sont des malfaisants et des malfaisants lucides. Ensuite, et là, le propos de Martha Nussbaum m'a vraiment complètement emballée, c'est qu'elle parle bien de l'éducation. Mais c'est quand même peut-être là, en revanche, un point de vue très européano-centré. Pour nous, l'éducation, ça s'arrête finalement soit à 18 ans, et pour les plus libéraux, les plus gens de gauche, allez, on va aller jusqu'à 25 ans ou jusqu'à 30 ans. Et après? Vous voyez? Et là, je trouvais que c'était effectivement commencer à aller sur des chemins assez glissants avec Martha Nussbaum, puisque qu'est-ce que c'est que cet État qui se propose donc d'éduquer? Elle parle bel et bien de citoyen. Ça peut être assez rigolo, quoi, quand même, oui.
Ben, merci Sylvie.
C'est moi qui vous remercie, parce que c'était vraiment très, très intéressant, quoi. Et, oui, vraiment.
Merci beaucoup. Isabelle.
Oui, ben écoute, ravie hein, de cette première participation. Je trouve que tu nous exposes tout ça avec beaucoup de clarté, et ce qui fait fuser dans la tête énormément de questions, hein. J'aurais beaucoup de mal à en rassembler. Ce que j'apprécie beaucoup dans ce que tu présentes de cet auteur, c'est qu'elle mélange des approches différentes, tu vois, c'est la psychologie, l'éthique, le politique, l'éducation, et je trouve qu'elle nous invite à la pensée complexe. Et Dieu sait si on en a besoin. Et puis, j'aime aussi ce qu'elle peut dire, mais ça, c'est plus parce que ça concerne par rapport à mon domaine, tout ce qui touche à considérer l'autre comme un objet. Enfin, ce qu'on appelle la perversion ordinaire. Hein. Et là, bon, on est dans un niveau aussi très. Et tu le soulignes, hein, il y a aussi le niveau individuel. Enfin, voilà. Et ça amène à réfléchir sur des plans très, très différents, individuels, collectifs, sociétal, politiques. très intéressant.
Oui. Merci. Ben, merci. Je suis obligée de me dépêcher un petit peu. Éléonore, comment ça a été pour toi? J'entends que ça déménage là-haut, alors je m'attends à ce que... Vas-y, Éléonore, comment ça a
été? C'était très, très dense. Pour moi, ce qui est compliqué quand il y a des morceaux très denses comme ça, c'est que il y a plein de questions, et évidemment, comme tous les autres, on peut pas t'interrompre toutes les 5 minutes. Et le problème, c'est que souvent, je reste un peu kéblo par rapport à des questions sans réponse, et en même temps que tu parles, je suis en train de parler dans ma tête. Enfin, j'essaie de démêler des trucs, et au final, je fais encore plus de nœuds.
Ouais,
mais d'où l'intérêt des replays, et puis de voilà. Mais c'est vrai que à chaque fois je termine le truc complètement embrouillé, quoi. Mais après ça se fait en plusieurs temps, quoi.
Oui, je comprends.
Là, j'ai l'impression que j'ai rien compris.
Ah non, mais je suis sûre que, parce qu'en fait, je me répète quand même souvent, hein, j'ai essayé de bien poser les repères au début, l'éducation pour la croissance, l'éducation pour la démocratie. Donc,
non, mais pas avec toi, je parle pas de... Je dis pas que j'ai pas compris ce que toi, tu as exposé. J'ai dit, à ce stade-là, j'ai pas encore compris vraiment Bref.
Mais ça suit.
Mais non, je parle pas du tout de...
Ah oui, non,
pas du tout de ton...
Il y a un petit décalage.
De ton intervention. C'est clair, quoi.
Oui, mais je comprends ce que tu veux dire. Hein. Même moi, hein, ça fait des nœuds dans ma tête. Mais
merci beaucoup.
Je dois m'arrêter. Je dois me dire, ah non, bah, c'est tout. Ça, tant pis, je le dis pas. Donc, c'est un peu frustrant aussi. Hein, mais c'est le jeu et ça me fait d'introduire. Hein. Renan, comment c'est ?
Non, mais merci beaucoup.
Très bien pour moi, ouais. C'est très intéressant. Et ben, comme d'habitude, voilà, ça donne envie de creuser, d'aller voir plus loin. Mais je crois que c'est le but, quoi. C'est de nous introduire un peu quelques idées clés, puis de donner envie d'aller plus loin et de revenir, de creuser les trucs pareils qu'on n'a pas eu le temps de bien creuser. Enfin, ça donne des amorces, des pistes et des amorces de réflexion, de choses qu'on pourra aller ensuite creuser ou essayer de démêler. Donc voilà, merci de nous donner envie de tout ça.
De lire le livre. je crois que j'ai fait le tour. Jacqueline, ça, tu avais dit hein, que ça va, ce que j'ai débordé là. Donc il reste, je crois que j'ai fait Raphaël. Il reste Raphaël. Comment ça a été pour toi?
Sympa de me donner le mot de la fin. Je vais faire court. J'ai des travaux juste au-dessus de moi qui se sont déclenchés au moment où tu as commencé à parler. Et c'était super pour moi. Je regrette presque. Que tes filles étaient aussi sages, parce que du coup on aurait pu faire des souris qui dansent et prendre tout ça à contre-pied. J'ai trouvé ça super intéressant, j'ai l'impression d'avoir un programme politique sous les yeux et ça donne envie de creuser. En tout cas, ça nous donne une direction super intéressante. Mais j'avoue que la suggestion qui a été faite d'aller prendre le texte à contre-pied sur Discord, ça me fait envie aussi. Voilà, ça fait encore un livre de plus à lire. Je vais pas y arriver, mais je me contenterai de réécouter ce que tu as dit.
Oui, voilà. Alors Sylvie, je vais t'envoyer le lien du Discord. Et puis alors le Discord, je vous invite à en faire un peu votre espace. Maintenant qu'il y a du monde, je vais essayer de prendre du temps pour poser un peu le fonctionnement. Mais moi, je connaissais pas avant. Hein. C'est quelqu'un du club d'ailleurs qui avait suggéré qu'on utilise ça, ce que je trouve être une super idée. Ça va vous permettre d'échanger entre vous des trucs, etc. Mais voilà, tout ça pour dire que vous inquiétez pas si je suis pas capable de réagir dans tous les trucs sur Discord. On verra ce que ça donne, quoi. Mais voilà, et ben en tout cas, Oui, alors mes enfants sont j'entends qu'ils sont, elles ne sont pas vissées, hein, j'entends que ça bouge, que ça s'anime, etc. Elles font leur petite fiesta, mais sagement. Donc, j'avais même dit qu'elles pouvaient descendre vous faire un petit coucou à partir de 19h55 et elles sont pas venues. Donc, Madeleine et Gisèle! Bon, non, je crois que je ne vais pas vous retenir, mais une prochaine fois peut-être.
Merci.
Ah bah il y a Renaud qui vient d'envoyer dans le chat un lien Discord, Sylvie, si tu veux. Voilà, bah, je vous souhaite plein de bonnes choses, bonne soirée. Je mettrai donc le replay audio comme d'habitude sur le site et le lien sera dans la newsletter de mercredi prochain. Mais je mettrai le replay sur le site, voilà, assez rapidement. Hein, donc, au cours du week-end, je le mettrai dans un article homepage réservé au club. Voilà.
Merci.
Au revoir à toutes et à tous. Bonne
Merci.
fin de semaine et merci pour votre participation et bonne lecture si vous pouvez.
Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Bonne soirée, bon week-end à tous.
Au revoir.